Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Deux gros méchants VUS qui sont en fait un 100% électrique puis un VUS hybride.
Ouais.
Commence donc par me parler de ton MX-30. Bon, moi, j'en avais fait la chronique il y a quelques semaines. T'sais, c'est un niche. On appelle ça, en anglais, on dit un compliance car. Prenait un véhicule électrique chez Mazda.
Je le conduis. J'ai même pas fini mon essai, en fait. On essaie les véhicules pendant une semaine. Je suis venu avec... au studio aujourd'hui.
Ah, tu t'es rendu?
Je me suis rendu, écoute. en fait, c'est l'autonomie de ce véhicule-là qui a juste aucun bon sens. Là, on parle d'à peu près 160 km quand il fait beau. Là, tu vois, on est au début de l'hiver. Les conditions climatiques sont vraiment pas si pires que ça. Cette semaine, à 100%, l'ordinateur de bord m'affichait une autonomie de 138 km. Fait que c'est certain que... C'est plate parce que chaque déplacement
puis
doit être...
Il dépasse pas 90 km/h.
Non,
parce
non, parce que ça baisse.
Va devenir 110.
Ça baisse. Puis, tu sais, on n'est plus là. Il y a des véhicules électriques qui proposent plus que ça. Puis je dis pas qu'il faut absolument aller chercher la plus haute autonomie possible. N'importe qui possède un véhicule électrique sait que dans la majorité des cas, tu n'as pas besoin de tant que ça. Puis tu te recharges chez vous le soir venu. Mais ça prend au moins un véhicule qui est capable de t'amener, je sais pas. Moi, je pourrais même pas aller à Drummondville avec ce véhicule-là. Tu sais, c'est ridicule. Ben oui, tout est allé à Québec avec.
J'ai rechargé
quoi.
7 fois pour faire un aller-retour au Québec.
Ça n'a pas de sens, tu sais.
Tu sais, je veux dire, puis attends, là, on annonce 160. Fait que techniquement, là, je suis capable de me charger une fois entre Montréal et Québec pour me rendre. Non, non. Ouais. Parce que sur l'autoroute, là, la consommation chute drastiquement. Et évidemment, ben, s'il fait autour du point de congélation, ça chute encore plus.
Exact.
Parce que tu mentionnais que l'autonomie n'a pas de bon sens. Ça, c'est un point. Mais encore, faut-il être capable de la respecter. Et le problème, c'est que Mazda a fait des règles de 3 pour arriver avec les cotes qu'on nous a données. Par exemple, on dit... Batterie de 35,5 kWh, on est capable de prendre une charge jusqu'à 50 kWh quand on charge sur une borne de niveau 3. Donc, ça va prendre 35 minutes pour le recharger au complet. Bullshit! Parce que la vérité, c'est que, oui, on a une batterie de 35,5 kWh, mais moi, pour l'avoir branché sur une borne de recharge de niveau 3, jamais j'ai pu dépasser 33 ou 34 kWh de charge. Et ça, c'était dans le pic.
C'est ça, puis ça commence pas à 35 kWh.
Quand tu commences,
kWh,
t'es à 10,
là,
12, ben oui. 15.
Il y a une progression.
Quand tu te rends autour de 80%, ça commence à baisser.
Ouais.
Fait que la vérité, c'est que ça prend 1 heure et quart pour le recharger.
Ouais.
Mais il y a personne chez Mazda qui a fait le test, ne serait-ce qu'une seule fois. L'autre affaire, c'est que comme t'as pas de système de thermorégulation, t'en as un, mais auxiliaire. Tu sais, c'est pas un vrai système de thermorégulation comme tu vas retrouver sur une Bolt, par exemple. Ben, ça fait que l'impact sur la consommation d'énergie est drôlement plus grand que sur une voiture électrique moderne comme une Mustang Mach-E, comme une Chevrolet Bolt, etc., etc. Donc, ça ne fonctionne pas, tu sais, je veux dire,
surtout
la technologie
au prix qu'on le vend. Tu sais, si tu me disais, ah, ben il est 10 000 piastres moins cher qu'une Bolt, bon, OK, peut-être des gens qui ont vraiment des besoins limités en matière de transport, mais là, on est à 42 150 $, évidemment éligible aux pleins crédits gouvernementaux, là, fait quand même, tu enlèves 13 000. Mais la Bolt est moins chère que ça.
Il n'y a personne qui va acheter ça.
C'est plate parce
que.
Non, c'est ça. Le look, il est le fun à conduire quand même. Le look est cool.
Il n'y a pas de puissance non plus.
Non, il n'y a pas beaucoup de puissance. Mais en termes de maniabilité, tu sens que c'est plus léger qu'un véhicule électrique régulier avec une batterie qui fait deux fois cette densité-là. Par contre, les espèces de portes antagonistes, là, on a voulu faire un petit clin d'œil à la Mazda RX-8. Je pense l'angle mort est effrayant. Quand tu tournes à gauche puis à droite, ça n'a pas de bon sens. Tu vois rien. L'accès aussi aux places arrière, c'est bien cute, ces portes-là.
C'est comme la RX-8.
C'est facile.
C'est vraiment
tout petit. Là.
Ouais.
On parle d'un VUS, mais c'est roue
motrice
seulement. Là. C'est un beau clin d'œil à ce qu'on disait tantôt avec la chronique de Jean-François Lisée. C'est considéré comme un VUS alors que ça n'en est pas un du tout. Là.
Mais moi, en fait, ça me fait penser à la Mini Cooper SE.
Très similaire.
La Mini Cooper a 177 km d'autonomie annoncée. Mm-hmm. C'est une petite voiture urbaine. Et je te dirais que je préfère encore la Mini parce que, d'une part, son autonomie est beaucoup plus réaliste. Tu vas réaliser 175, 180, 185 km avec la Mini sans problème. Elle est pas mal plus le fun et dynamique à conduire, si tu veux mon avis. Puis, L'objectif de la Mini, c'est d'une voiture secondaire.
C'est ça. Ça pourrait être la même chose pour Mazda, mais encore une fois, je reviens au prix.
Mais on ne comprend pas l'approche que Mazda veut prendre avec ça. Puis, je ne sais pas si tu as ouvert le capot, mais tu sais que tu as un gros trou béant en dessous du capot. Parce que tout ce que tu as en dessous du capot, c'est un petit moteur électrique. Ouais. Et à côté, il n'y a rien.
Ouais.
C'est vide, vide, vide. On sait que c'est vide parce qu'on va amener l'année prochaine une version hybride rechargeable.
Il y avait une rumeur avec un moteur rotatif.
Ah, ben ça s'en vient.
Avec un fameux range extender.
C'est ça. Ouais. Ça s'en vient, c'est confirmé. Alors, tu vas avoir un moteur rotatif qui va se trouver sous le capot d'une version 2023.
Mm-hmm.
Laquelle ne bénéficiera toutefois pas, malheureusement, de la batterie de 35,5 kWh.
Ça va être encore plus petit.
Parce que faut mettre un réservoir d'essence.
Ouais.
Puis là, ben, on n'a pas l'espace pour le faire.
Ouais.
Donc, j'ai bien hâte de voir quelle sera la taille de la batterie réelle de ce véhicule-là. Puis au final, ça va être quoi le résultat?
Mm-hmm.
Mais en attendant, je ne sais pas pour toi, mais j'ai pas vu un seul MX-30 sur la route. Moi,
que c'est arrivé. Puis, écoute, au prix qu'ils vendent ça, il n'y en aura pas.
C'est ça. On a l'intention d'en vendre 700 au Canada pour 2022. J'ai bien hâte de voir. Il y a peut-être des villes qui vont acheter ça comme véhicule pour des urbanistes là, qui viraillent pour vérifier si tu utilises ta hose à jardin. Tu comprends-tu? Ça pourrait servir à ça. Mais
écoute, rendu là, achète une Bolt, elle est moins chère. Elle est moins chère, puis tu as le double d'autonomie, même plus.
Puis la fiabilité, on la connaît. Puis bon, la technologie est là. Puis la batterie se dégradera probablement pas aussi vite. Parce que là, on spécule, mais on connaît pas. T'sais, Mazda, en plus, n'a pas d'historique en matière de véhicules électriques. Fait qu'il y a bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Mais en attendant, c'est un gros coup d'épée dans l'eau.
Hyundai Tucson hybride.
Ouais.
J'ai bien aimé, moi.
Écoute, le look, je n'étais pas certain. Là. Il y a un petit peu trop de lignes d'un côté, je t'avoue.
Ben, comme tous les nouveaux produits Hyundai, on va se le dire.
Mais la partie arrière, je trouve ça magnifique. Puis quand tu prends place à bord, là tu fais « OK, oui, on est dans quelque chose de
c'est
pas mal
plus
moderne. » C'est
un produit sérieux, vraiment.
Tu stationnes un CR-V à côté de ça, puis tu fais « Oh boy, Honda sont plus là. »
Ouais.
Vraiment.
Le CR-V n'a pas changé depuis 5 ans.
Oui. Puis non, mais ça demeure encore un véhicule très vendu, très populaire.
Oui, absolument. Qui vit un peu sur son nom puis sur sa réputation.
Ouais.
Hyundai continue de travailler à forger cette réputation-là. Puis on arrive avec des produits très sérieux puis des motorisations intéressantes aussi. Il y a une hybride rechargeable qui s'en vient.
Ouais.
Puis l'hybride qui est déjà sur la route.
Ben, l'hybride rechargeable qui est déjà arrivé dans le cas du Santa Fe, mais qui va arriver un peu plus tard dans le Tucson.
Exact.
Là, moi, j'ai conduit le Tucson. D'abord, c'est un véhicule qui est super confortable, qui est silencieux, qui est raffiné, plus que la grande majorité de ses concurrents. C'est beaucoup plus silencieux qu'un RAV4, c'est beaucoup plus silencieux qu'un Forester. Tu sais, c'est un véhicule très confortable. L'ergonomie, c'est bien. Il y a quelques petits trucs au niveau des écrans, là, faut que tu t'habitues.
Mm-hmm.
Mais c'est un véhicule très, très, très bien pensé. J'ai juste été déçu de la consommation d'essence.
Qui est un petit peu élevé quand même par rapport à un RAV4 hybride, par exemple. T'as fait combien?
J'ai fait 7,8 litres.
Oh, quand même!
Alors qu'un RAV4 hybride, là, tu vas faire 6,2, 6,3, 6,4. Le Ford Escape, t'es à 6 litres tout juste.
Mais ça, tu vois, j'avais noté la même chose. Notre collègue Julien Amado avait noté exactement la même affaire. Fait que c'est pas juste anecdotique, ton truc. C'est vrai que le Tucson hybride va consommer davantage que ses rivaux également dotés d'une motorisation hybride. C'est pas la fin du monde, ça reste, tu sais, c'est même pas 7 litres au sable pour un VUS compact, c'est pas si pire, mais...
Ben c'est, oui, c'est 7,8 que j'ai fait.
7,8, excuse-moi. Alors, mais c'est ça, c'est beaucoup quand même par rapport aux autres modèles hybrides.
Tu sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un Nissan Rogue flambant neuf, puis c'est ça qu'on consomme.
Ouais.
Avec un 2.5, qui est un moteur qui date de Mathusalem, avec une boîte CVT. Fait que t'es au même niveau que ceux qui consomment le moins dans le segment, mais avec une motorisation hybride. Bon, t'as le couple à l'accélération, t'as cette douceur de roulement, etc. Puis si tu fais uniquement de la ville, c'est sûr que t'as un petit avantage.
Oui.
Alors, ça demeure moins gourmand qu'un véhicule à essence conventionnel si tu prends un Tucson conventionnel.
Parce que toi, ton 7,8 litres, t'étais sur autoroute.
Ah, j'ai
pas
fait
mal.
50-50.
OK.
J'ai fait 50-50. Mais c'est sûr que si j'avais fait uniquement de la ville, je me serais tenu dans le 7.
Ouais.
Mais avec un RAV4, 5,8.
C'est sûr.
6.
C'est sûr. Ouais. C'est beaucoup plus efficace.
Cela dit, des RAV4 hybrides, soit dit en passant, il n'y en a pas.
Mm-hmm.
C'est aussi. On n'a pas le même problème qu'avec un Prime, là. Mais
c'est quelques mois d'attente.
Ah, c'est un an.
Un hybride?
C'est un an, là.
OK.
Il n'y en a pas. Okay. C'est pas compliqué, là. Ils sont pas capables de fournir à la demande. Mm-hmm. Les délais s'allongent. Écoute, on me disait chez Toyota cette année, on va flirter avec le 60 000 unités vendues au niveau du RAV4.
C'est fou, hein?
En 2021 au Canada. De ce nombre, 41 000 jusqu'à maintenant sont des RAV4 à essence conventionnelle.
Mm-hmm.
On a vendu un peu plus de 14 000 hybrides. Et si on en avait eu deux fois plus, on en aurait vendu deux fois plus. Sûr. Et on a vendu 4 000 Prime. Alors, on en a livré des Prime. Là, mais la demande est tellement forte.
C'est ça. Puis c'est un véhicule qui vient du Japon, le Prime, là, contrairement aux autres RAV4.
Uniquement au Québec, actuellement, il y a plus de 6 000 dépôts de données pour des Prime. Et on s'attend à voir quelque chose comme 2500 unités pour le marché du Québec en 2022.
Ouais.
Donc, ça donne une idée du temps d'attente.
Puis ça pourrait aider Hyundai qui arrive aussi avec son Tucson hybride rechargeable.
On reçoit beaucoup de questions en ce moment sur le Sorento PHEV et sur le Santa Fe PHEV qui sont disponibles. Quelqu'un qui veut en acheter un, tu peux l'avoir en dedans de quelques semaines. Ça va se faire assez rapidement, mais tu vas l'avoir en dedans de quelques semaines. Alors ça, moi, je trouve ça quand même intéressant. Et encore une fois, bonjour, M. Lizé.